la différence n'est-elle que de degré ou est-elle de nature? Ce sont des questions que nous devons nous poser dans la distanciation, la froideur d'esprit, dans l'intelligence et le discernement. Et j'imagine que des sessions telles que les vôtres y contribuent. Ainsi, l'honnête homme, selon la définition des siècles derniers, se fera, de par son propre entendement, une idée, une connaissance, une réponse par rapport à ces questions-là. Alors, j'ai dit que le mot ou le vocable est à la fois anxiogène et un mot valise. Tout est le contraire de tout. Aujourd'hui, nous gagnerons à préciser quelques notions. Mais le mot, ça va depuis les logorrhées dégénérées d'Al-Qaïda et la figure désormais mythologisée de Ben Laden, jusqu'à peut-être ce qui est intériorisé dans les cœurs par la mystique soufie. Peut-être dernier point, de nos jours, il est oxymorique de parler d'humanisme et d'islam. Or, il se trouve qu'il y eut un humanisme en contexte islamique d'expression arabe. En gros, dès la fin du 8e siècle jusqu'au 13e siècle. Avec ce qu'on appelle en latin, je ne fais pas une vaine érudition, pas avec étalage de quelques propos, ce qu'on appelle la Translatio Studiorum, qui a recueilli la sagesse grecque et qui, via notamment l'Andalousie, mais pas uniquement, et tout particulièrement à Véroès, mais pas uniquement, a été retransmis comme ça, et qui fait que l'Aufklärung, les Lumières, ne sont pas venues sui generis, mais s'inscrivaient dans ce grand mouvement autour de la Méditerranée, notamment de l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, et qui était héritier lui-même de Protagoras, d'Épicure et de Terence, l'esclave affranchi. Et n'eût-il une présentation de l'histoire mutilée et mutilante, je ne serais pas en train d'expliquer en donnant les protagonistes de cet humanisme-là, et puis la suite est que nous connaissons. Bon, ce n'est pas le sujet, vous avez les Sadex El Lam, les Tariq Oubrou, etc., dans votre programme, et vous verrez avec eux. En ce qui nous concerne, maintenant, ça on rentre in medias res, dans le vif du sujet. Avec ce qui nous intéresse, ce sont les fondements, les sources, etc. N'empêche que là-dessus, quelques réflexions. Le monothéisme, parce que la tradition religieuse islamique se veut monothéiste, et tout à l'heure, en disant que le vocable, on ne sait plus à quoi il renvoie, l'une des meilleures périphrases, c'est qu'il s'agit d'une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique islamique. La phrase est alambiquée et longue, donc je vais la répéter. C'est une réalité complexe ou des problématiques complexes de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique islamique. Ça sous-entend que la tradition religieuse islamique se veut, du point de vue de sa cohérence interne, ou du point de vue de sa logique propre, ou du point de vue de sa théologie propre, comme une continuité. Elle se veut propagatrice dans un prolongement naturel des préceptes de la Torah et des commandements de l'Évangile. C'est une continuité. Qu'un non-musulman n'y souscrive pas, c'est son droit le plus absolu. Mais en tout cas, pour parler prosaïquement, un musulman ne peut pas être musulman s'il ne reconnaissait pas la validité, je dis bien la validité, de l'enseignement de Moïse. Allez, pour faire encore plus simple, un musulman ne mange pas de porc parce que le juif n'en mange pas. C'est aussi simple. Il y a une filiation au niveau de la pratique religieuse et de quelques observances. En termes techniques, on parle de péricope. Il y a dans le Coran 500 péricopes. Une péricope, c'est une unité textuelle, ce n'est pas tout à fait un verset, qui évoque la Torah, qui évoque Moïse, qui évoque, à supposer que l'approche quantifiée ou quantitative soit pertinente, parce qu'il peut y avoir un seul mot et qui ait son importance. Ce qu'on appelle là aussi un apax, dans un corpus, un seul mot. Donc, et là aussi, je continue, on ne peut pas prétendre un instant être musulman si on ne reconnaissait pas l'authenticité et la validité de l'enseignement ou du message christique. J'ai bien dit enseignement et message. Alors vous allez me dire, ben, tout ça est bien beau, alors pourquoi est-ce qu'il y a des querelles? Et le mot querelle est un doux euphémisme à travers l'histoire. Eh bien parce que les divergences sont sur des points doctrinaux et sur des considérations dogmatiques. Et ceci rappelle deux métaphores. Une première métaphore dite celle des tables gigognes, et la seconde métaphore est l'œuvre de Monet quand il a peint la cathédrale de Rouen. La première métaphore, donc celle des tables gigognes, c'est que on croirait, on penserait que dans une vision séquentielle de la révélation, bon, j'ai utilisé quelques mots qui nécessitent sûrement d'être précis, qu'est-ce que c'est que révélation, etc. Mais en tout cas, dans une vision séquentielle de la révélation, celui qui parle le dernier a nécessairement raison, et donc on coiffe le tout, on parachève le tout, on est détenteur de la vérité absolue dans sa version ultime, et au mieux ce qui précède, on l'accomplit, au pire on l'abroge et on le laisse aux oubliettes. Je reprends une des paroles de Michel Serfati, le grand rabbin de Ris-Orangis, qui disait: Ah oui, mais les musulmans pense avoir fourni la copie finale d'un examen et ce qui précédait, ce n'était que le brouillon. Bon. Que des musulmans à travers l'histoire eussent été tentés par cette vision et que de nos jours ils continuent à l'être, c'est indéniable. Mais, et le mais est de taille, c'est qu'à côté de cette vision, à côté de cette métaphore, et bien celle de l'œuvre de Monet, quand il a peint la cathédrale de Rouen, il a fait une série de toiles. On en a six au musée d'Orsay. Et donc, quand il a peint le matin, elle n'a pas le même jeu d'ombre et de lumière quand il a peint l'après-midi. On n'en a pas l'impression qu'il s'agit de la même chose, c'est le cas de le dire. Et là, mutatis mutandis, on est dans la même situation. La réalité ultime, pour les croyants, c'est Dieu qui parle aux hommes. Il y a les saintes écritures. Quand cette révélation se fait comme une projection, comme une éruption fulgurante dans le monde sensible des hommes, elle épouse les contingences humaines à un moment donné de l'histoire. Il se trouve que c'est pour le peuple hébreu, il se trouve qu'elle se fait homme parmi les hommes, en la personne même de Jésus, un musulman aurait dit notre Seigneur Jésus, et puis elle se fait verbe, elle se fait Coran, elle se fait récitation, étymologie du mot. Enfin, le mot Coran est si polysémique et si dense, et qui est d'origine syriaque, curieusement, et pas d'origine arabe, au niveau purement linguistique, veut dire à la fois prêche, proclamation, récitation, lecture, appel, tout ça à la fois, dans une première acception, dans une deuxième acception, diffusion, dans une troisième acception, rassemblement, et dans une quatrième acception, protection. C'est pour dire la polysémie et la densité du mot. C'est toujours le cas pour ces langues camito-sémitiques, comme on dit, et celles d'Orient, le syriaque, le nabatéen, l'accadéen, l'hébreu, l'arabe, etc. Plus souvent construit sur des racines trilitaires. Donc voilà, alors les querelles, j'ai dit, portées sur des points doctrinaux, ils sont de taille. Si j'ose dire, hein, avec une caricature est faite pour grossir le trait, une caricature est faite pour gagner du temps. C'est comme on dit à quelqu'un qui n'arrive pas à saisir, je te fais un dessin. Donc là aussi, dans cette relation triangulaire, les difficultés ou les divergences dogmatiques sont, allez, on va faire simple, vis-à-vis du judaïsme. Là aussi, pour faire simple, c'est dire: Ah, mais pourquoi est-ce que vous avez arrêté la reconnaissance de la chaîne prophétique à Malachie? Et pourquoi vous ne reconnaissez pas la prophétie mohammedienne, d'une part, et d'autre part, pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas le caractère messianique de Jésus? Bon, ça a donné lieu à des débats, des querelles, etc. Bien entendu. Je résume dans un précipité de temps de quelques minutes ce qui a pu se passer pendant des siècles. Et dans cette même relation triangulaire, poserai la question, ou si ce n'est déjà fait, ou à l'intervenant qui parlait du judaïsme ou du christianisme, il y a encore entre judaïsme et christianisme beaucoup de choses, mais cette fois-ci, dans l'autre aspect de rencontre et de débat et de difficultés, ce sont les considérations théologiques sur la nature même de Jésus. Est-il fils de Dieu? On aurait dit, s'était-il hypostasié en Père, Fils et Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est le Messie, mais homme parmi les hommes et un éminent prophète? Puisque la vision islamique, c'est qu'il est un éminent prophète, sceau de la sainteté, il a scellé la sainteté, il n'y a pas plus saint que lui. Sa naissance miraculeuse est attestée, attestée pour les croyants. Je ne suis pas dans le concordisme scientifique où certains veulent dire que ce fut une sorte de parthénogenèse. Ça n'a aucun sens. Et puis, bien entendu, pourquoi vous n'avez pas aussi reconnu la prophétie mohammedienne, d'autant plus que le fameux paraclet, au sens grec, ce n'est pas l'Esprit Saint, si, ça peut être l'Esprit Saint, mais c'est aussi le louer, le glorifier. Or, il se trouve que l'étymologie du mot Mohammed, le nom Mohammed francisé ou occidentalisé au Mahomet via le Turc, ça on l'oublie, qui disent Mehmet, veut dire le louer, le glorifier. Et donc il y a là une cécité ou une myopie à ne pas vouloir voir ni comprendre dans le paraclet biblique et dans son étymologie grecque qu'il y a une glorification et des louanges dans l'étymologie même du mot. Bon. Alors on va laisser ça de côté. Le patriarche Athénagoras disait il faut réunir les théologiens sur une île déserte. Le jour où ils se mettraient d'accord, ils pourraient réinvestir le monde. Bon, maintenant, le cours proprement dit, si je puis dire. D'abord le contexte social, politique, économique, culturel de l'avènement de la révélation coranique, et puis le statut même de cette révélation. S'il nous reste un peu de temps, parce que j'ai vu dans le mail de Cyril les traces ou les preuves de l'authenticité même de la biographie du prophète de l'islam. Et puis on parlera aussi bien du Coran que des aphorismes prophétiques qu'on appelle en termes techniques maintenant connus les hadiths, mot qui ne veut rien dire d'autre que parole ou apophthegme si on a envie. L'apophthegma en grec, c'est une sorte de parole, un aphorisme. Alors, le contexte. On est au 7e siècle, même fin du 6e siècle. Allez, charnière 6e, 7e siècle de notre ère. C'est-à-dire, nous sommes en 2014, de l'ère commune, dans la péninsule arabique. C'est un vaste territoire. Pour des nomades le plus souvent, qu'on appelle arabes, il y a tout un débat sur l'appellation arabe. Est-ce que les arabes sont appelés arabes parce que leur langue est arabe, et je vous dirai qu'est-ce que ça veut dire, ou est-ce que pour d'autres raisons? La toute première fois où le vocable apparaît, ou l'une des hypothèses, c'est dans une tablette d'un roi assyrien, Salmanazar III, en moins 853, où on a immortalisé une bataille entre ce roi assyrien et un chef arabe, Gindibou Laribi, ou Gindibou selon les prononciations. Tiens, le mot apparaît dans l'histoire comme ça. Puis on peut le trouver chez Shakespeare, on peut le trouver chez Melville, on peut le trouver dans ce qui tenait à l'Arabia Felix, l'Arabie heureuse, le Yémen, ou l'Arabia Eudaimon, l'Arabie heureuse des Grecs, etc. Donc cette Arabie heureuse, surtout celle du Yémen, au sud, donc, a connu quelques royaumes. On n'a pas le temps d'entrer plus dans le détail. Plus au nord, dans la partie septentrionale, on a encore deux autres royaumes tampons, parce qu'il y avait les deux grands de l'époque, les Byzantins à l'ouest et les Sassanides à l'est. Et puis, entre ce grand désert qu'est l'Arabie et puis Byzance d'un côté et l'Empire Sassanide de l'autre, il y avait des royaumes vassaux. Les uns sont le royaume des Ghassanides, sont plutôt des chrétiens nestoriens. Et si ce n'est pas le cas, ce sont les autres qui sont nestoriens et les autres sont monophysites. Donc les Ghassanides sont des vassaux de Byzance. Et puis les Lachmides, les autres, c'est un royaume vassal des Sassanides. Mais la vie en Arabie est plutôt au nomadisme. En gros, hein, il y a des oasis. Et parmi ces deux oasis, il y en a quelques-unes. Parmi les oasis, il y en a deux ou trois qui vont entrer dans l'histoire. Il y a une ville qui d'abord s'appelait Beka avec un B, et puis le nom a été corrompu en Mecca. En M, c'est curieux, c'est comme ça. Et elle se trouve sur un val, comme on aurait dit le val de Marne ou le val de Loire, d'un oued, d'une rivière asséchée. Bon. Et cette ville, cette cité, cette oasis, était habitée par des Arabes sédentarisés cette fois. Et une tribu essentiellement la domine, la tribu qu'on appelle la tribu des Quraysh, c'est un diminutif de requin, ce qui est curieux parce qu'ils étaient loin de la mer Rouge où il y avait quelques squales. Mais paraît-il, on les appelle comme ça parce qu'ils étaient durs en affaires. Et ça me ramène à dire que cette cité, était dirigée, curieusement pour l'époque, comme une sorte de république marchande. Plus exactement par ce qu'on appelle des ploutocrates, la ploutocratie étant le pouvoir des financiers, des argentiers, des négociants. Et ces Arabes-là, ces Mécois-là, s'étaient enrichis considérablement, à tel point qu'ils s'habillaient avec du brocart, qu'ils habitaient des palais somptueux et avaient des ustensiles en or, ce qui est curieux pour cette ville-là, pour la Mecque, parce qu'ils avaient une sorte de rotation, si j'ose dire, un double voyage. En été, il fait tellement chaud qu'ils essayent d'aller s'aérer dans les pays du Levant, donc du côté de l'actuelle Syrie, de l'actuel Liban, etc. Et en hiver, bon, les choses sont un peu tempérées, ils peuvent aller au Yémen. Et là, ils vendent et ils s'achètent, soit les épices, les parfums, enfin tout ce qu'on veut, ils les revendent, puis ils ramènent des choses. Et cette double rotation a enrichi la ville de la Mecque. Quand je reviendrai, si on a un peu de temps, sur la vie même, la biographie, pour ne pas dire la géographie de Mahomet. Je vous dis, en gros, enfin, il est né en 570, dit-on, mort en 632. Ça nous fait 62 années solaires qui équivalent en gros à 63 années lunaires. Parce qu'à l'époque, on comptait plutôt en années lunaires et le calendrier était basé sur les lunaisons. En 610, donc l'homme doit avoir en gros une quarantaine d'années. Vous savez, dans ce genre de choses, il y a deux approches. Il y a l'approche du fait religieux en tant que tel, d'un point de vue purement anthropologique. On n'est pas dans un cadre de foi ou de croyance. Bon, le monothéisme, de ce point de vue-là, n'a fait qu'une apparition tardive dans l'histoire des hommes et sur une ère ailleurs circonscrite. Une ère suméro-babylonienne, et puis voilà, parler des prophètes, ça n'a pas beaucoup de sens. Abraham n'est qu'une FSI, une figure symbolique idéale, qui polarise ou qui cristallise beaucoup de choses, point. Et l'intelligence des hommes fera que plus tard et dans des siècles à venir, on n'en parlera plus. Et d'aucuns disent non, le point de vue de la croyance et de la foi, si on est dedans, eh bien, ça rejoint le discours que je suis en train de vous dire. Bon, donc en gros, aux alentours de 610, voilà un homme qui finalement, voulant fuir la pompe, le décorum, l'apparat, parce que lui-même s'était enrichi, il a eu une jeunesse, si j'ose dire, classique d'un futur prophète, c'est-à-dire pauvre, pasteur, berger, démuni et tout ce qu'on veut, en ayant épousé une brave dame, à cette époque de l'année, on ne parlait pas des dames, donc une femme, qui finalement l'avait employé, donc il a épousé son employeur, dirions-nous, et il vivait dans l'aisance. Et puis à un moment donné, il s'est retiré de ça, il va dans les faubourgs de cette cité, il se retire du vacarme tumultueux de la ville trépidante pour s'adonner à des moments de méditation. Et de contemplation, d'intériorisation, etc. C'est ce qu'on appelle le saut périlleux de la foi. On croit, on ne croit pas. C'est une autre histoire. Mais voilà que par un beau jour du printemps 610, il y a cette idée d'avoir entendu, certains ajoutent Mordicus, qu'il avait vu. Moi, je reste sceptique, mais elle a entendu un ordre, une voix qui lui intimait de lire. Lis. Je vous ai dit tout à l'heure que le verbe, enfin le substantif courant ne veut pas dire lit, lecture uniquement, mais le verbe ne veut pas dire lit uniquement. C'est un verbe qui dit à la fois lit, proclame, récite, appelle, prêche, je ne sais quoi, diffuse, parce que, encore une fois, le verbe dont l'étymologie est syriaque, veut dire tout ça à la fin. Alors je vous la fais très courte, parce que ça a fait couler d'encre depuis là aussi des siècles. La réponse, si je fais un peu de psychologie de bazar, est de dire la réponse classique telle qu'elle nous est parvenue, mais je ne sais pas lire. Plus exactement, je ne fais pas partie de ceux qui savent lire. Je ne suis pas un liseur, pas un lecteur, enfin, je ne lis pas. Paraît-il que l'ordre est venu encore une deuxième fois. Lis. Et la réponse, on imagine, d'un homme qui croit être la proie à une hallucination, ben dit, mais je ne sais pas lire. Et au bout de la troisième fois, il y avait un enchaînement de paroles qui est lis, lis au nom de ton Seigneur généreux, celui qui a créé l'homme, et à partir d'une adhérence ou d'un caillou de sang, selon les traductions, lis, encore une fois, au nom de ton Seigneur généreux, qui a appris à l'homme ce qu'il ignorait par la plume ou par le calame. Donc je reprends les tout premiers mots considérés actuellement par les musulmans comme étant les tout premiers. La toute première parole coranique. Et donc, je reprends, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence ou d'un caillou de sang, lis au nom de ton Seigneur généreux qui a appris à l'homme ce qu'il ignorait ou ce qu'il ne savait pas par la plume ou par le calame. Puis, bien sûr, les versets s'ensuivent. C'est l'actuelle sourate. Une sourate n'est pas un chapitre, mais c'est l'équivalent d'un chapitre, une sourate du Coran. C'est l'actuelle 96. Ah, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas la première? Tout simplement, c'est que le classement dans le corpus coranique à notre disposition, quand je dis notre, nos autres humains, celui qu'on peut compulser, n'est pas un classement chronologique. C'est un classement par ordre décroissant de la longueur des dites sourates. Ben, c'est une façon de classer un recueil. Et les poètes arabes du temps j'allais dire de l'ignorance, c'est pour dire l'apologie mièvre et défensive des musulmans à travers l'histoire, c'est de considérer que ce qui était avant l'avènement du Coran était baptisé comme un temps de l'ignorance, ou de la méconnaissance, ou de la non-connaissance, en tout cas, sous-entendu, des lumières divines. Et donc les poètes de cette époque-là classaient dans leur recueil leur poésie en ordre décroissant du nombre de vers. Bon, ils ont fait la même chose, tout simplement. Donc c'est l'actuel sourate numéro 96. Alors si je continue un peu l'enchaînement des choses, l'homme ne pouvant plus rester dans cette grotte, dans cette petite caverne, un peu dans les faubourgs de la cité de la Mecque, est descendu rejoindre, après quelques jours d'absence ou plus, rejoindre son épouse. La biographie, pour certains, c'est une légende dorée, et ça, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être l'hagiographie d'Agios sacré. En tout cas, était de partir rejoindre son épouse, sa tendre épouse Khadija, en lui disant, parce qu'il tremblait, couvre-moi, couvre-moi, emmitoufle-moi en quelque sorte. Et donc, elle ne comprenait pas ce qui arrivait, ben, il s'est allongé, elle l'a couvert. Et voilà qu'il entend encore, ô toi couvert de manteau, lève-toi et proclame, ou lève-toi et prêche. Et que c'est devenu tellement insistant et insupportable qu'il s'en est ouvert encore une fois à sa femme en lui disant, ben, voilà ce que j'entends. Et elle lui a dit, eh ben, tu es prophète. On l'a fait simple, c'est court, etc. Et j'ai un oncle que je vais consulter, un oncle chrétien. Et elle est allée le voir, elle lui a dit, voilà ce qui arrive à mon mari. On ne sait pas ce qu'il a. Est-il possédé? Est-il... Ah, lui dit, il était annoncé dans les Écritures. Il est arrivé, voilà. Bon. Je vous donne la version standard. Il y a actuellement à Berlin, pardon pour la digression, tout un programme qu'on appelle le Corpus Coranicum. Et ce programme académique de chercheurs de renom à Berlin veulent authentifier ce que je suis en train de vous raconter quasiment au mot près, presque au jour près, aussi bien sur le statut même de la révélation que cette trajectoire de vie que je vous ai résumée en quelques mots. Bon, ben alors voilà que maintenant, un musulman plus ou moins radical m'entendant parler comme ça ne lui plairait pas, ben, il se prend au jeu et il proclame, ben, voilà, il va prêcher. Raconte-t-on qu'au bout de 3 ans, il n'a convaincu quasiment personne, enfin, quelques-uns. Au début, les Mécois, et surtout les riches Mécois, commençaient à dire, ben, le pauvre Mohamed, pourtant il était bien, je ne sais pas ce qu'il a pris, il a voulu être poète, il n'a pas su, parce que ce qu'il disait avait des assonances, ça avait un impact hypnotique, même pour certains, auprès de ces Arabes funambules de la langue, comme on dit. J'ai dit tout à l'heure, je parlerai du milieu culturel. Il n'y avait pas une réflexion de type philosophique au sens grec. Il n'y avait pas une connaissance des cadastres, de l'agriculture, un peu à la manière des pharaons, avec le Nil, etc., ou avec les Mésopotamiens. Bon, qu'est-ce qu'ils avaient? Un amour immodéré pour le cheval. Donc, ce qu'on appelle l'hippiatrique, pas l'hippologie, enfin, toute la science est entrée au cheval. Le chameau était l'étalon de fortune. Un homme richissime a plusieurs chameaux, jusqu'à des milliers de chameaux, et un pauvre homme n'en a qu'un seul, et le misérable n'en a pas du tout, parce que le chameau était quelque chose d'important. Ils avaient trois autres qualités qui les caractérisaient eux seuls. J'ai dit des funambules de la langue comme poètes, maître de la prosodie et de la versification, une connaissance extraordinaire au sens premier du terme, de l'astronomie, parce que la voûte céleste, toujours au-dessus de constellés, de myriades d'étoiles depuis toujours, et puis ils la connaissent. D'ailleurs, la terminologie actuelle de l'astrophysique reprend soit telle qu'elle, soit traduite la terminologie arabe, Altaïr, Fom el-Hout, Tabeltoban, etc., Betelgeuse. Et puis, la connaissance de la filiation et puis les traces. Ils étaient des fins limiers. Il suffisait pour eux de voir quelques traces pour dire un tel est passé par là, il est gros, il est ceci, il a mangé telle chose. Je ne rentre pas dans des détails scabreux parce qu'ils peuvent même analyser les restes. Bon, c'était des caractéristiques pour eux comme ça. Et donc, ces riches, mais quoi? Se sont dit, ah, mais le pauvre bonhomme, voulant égaler nos grands poètes prodigieux, s'essaye à la prosodie, il ne peut pas, voilà. D'autres disent qu'il était habité par des djinns, d'autres disent, bon, en tout cas, on ne sait pas ce qu'il lui prend. Et puis, sans pouvoir de nuisance, commençait à devenir de plus en plus gênant au bout de 3, 4, 5 ans, et un discours de type pas de différence entre le riche et le pauvre, pas de enfin de type égalitaire. Maxime Robinson indique qu'il était le premier communiste avant la lettre. Bon, donc ça commençait à gêner les ploutocrates, mais quoi, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors on a voulu négocier avec lui. Là aussi, je ramasse un peu. On lui a dit, écoute, on a deux royaumes un peu plus au nord, il y en a un au sud. Nous n'avons pas dans notre cité de la Mecque. Si tu as envie d'être notre roi, nous te considérons comme notre roi. Mais bon, laisse-nous vaquer un peu à nos occupations, etc. Tu vas pas quand même révolutionner l'ordre établi. Tu vas pas nous dire que du point de vue de la dignité humaine, j'utilise les termes de maintenant, il y a une égale dignité entre le maître et l'esclave. Tu sais, moi, mon esclave, je le bastonne s'il ne m'obéit pas. Tu vas pas me dire qu'il faut qu'il s'insurge contre cet état de fait. Et là, il y avait une parole gardée par la postérité. Dussiez-vous donné dans ma main droite le soleil, dans ma main gauche la lune, afin que je renonce à cette mission ou à cet ordre, sous-entendu ordre divin, je ne le ferai pas. Alors là, ils sont allés voir son oncle, qui était encore vivant à ce moment-là, Abou Talib. Ils sont allés lui dire, écoute, va raisonner un peu ton neveu, on a négocié avec lui, maintenant il veut pas être notre roi, et qu'il cesse un peu de nous raconter ce qu'il est en train de faire, parce que nous étions bien avant les 3-4 années précédentes. Alors, raconte que Abou Talib est venu voir son neveu, il n'a pas pu le raisonner, et on dit que c'était même une sorte de tristesse et de chagrin que pour Mahomet, que son propre oncle n'avait pas épousé les thèses de sa prédication. Bon, les premiers temps, les choses se corsent, s'enveniment, alors il a été mis au ban. Cette mise au ban, de nos jours, on aurait parlé mis sous embargo ou boycotté, pour la simple raison que pour l'époque, il n'y avait pas de système pénitentiaire. Si on n'est plus d'accord avec quelqu'un, on l'exile, et s'il ne veut pas partir, on ne lui parle plus. On ne lui parle plus, on ne lui vend rien, on ne lui achète rien. Et pire encore, si les choses perdurent, on ne lui donne pas des filles pour se marier, on n'épouse pas ses filles, il est carrément considéré comme un paria. Et plus grave encore, il n'y a plus la solidarité du clan. C'est-à-dire, si quelqu'un vient l'oxyre ou le malmener, il est comme ça, il est tout seul. Parce que pour le 7e siècle, et notamment en Arabie, et dans un milieu sémitique, la solidarité du groupe était fondamentale. Donc il y avait donc cette mise au ban, mais elle ne concernait pas que l'homme seul, aussi les adeptes, qui étaient à ce moment-là sa femme Khadija, un fils adoptif, quelques esclaves affranchis, le tout premier compagnon Abou Bakr, que je francise en Boubaker, qui deviendra plus tard premier calife, calife étymologiquement successeur de son cousin Ali, etc. Bon, voilà, quelques-uns. Alors, il y avait. La vie était tellement dure qu'on dit qu'il n'avait même pas trouvé quoi manger, il au pluriel. Donc, il y avait un premier exil, un premier départ, une première fuite, un premier exode. Tous ces mots-là sont résumés dans le mot arabe francisé hégire. Une première hégire en Abyssinie, c'est-à-dire il suffisait de traverser la mer Rouge. Donc ils sont allés auprès du Négus. Le Négus est un titre, comme on dit le Basilius ou César ou Chosroès. Bon. Et là, les Mécois se sont dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils veulent aller s'allier auprès du Négus? Ils ont dépêché une ambassade auprès du Négus en lui disant, écoute, ce sont nos parias, ou tu les enchaînes, ou tu nous les restitues. Eh bien, le Négus s'est dit, moi, je ne vais pas courir le risque d'encourir le courroux des Mécois. Il avait même ordonné qu'on les enchaîna. Et voilà, dit-on toujours, que ce qui les avait sauvés, ces premiers fuyards, il n'y avait pas le prophète avec eux. C'était la fameuse sourate, l'actuelle sourate 19, la sourate de Marie. Et donc en récitant la sourate de Marie, le Négus étant chrétien, il a été attendri par les belles paroles de la sourate de Marie. Donc il a éconduit la fameuse ambassade des Mécois. Et ceux-là sont revenus bredouilles, ont commencé à se dire, tiens, on a un sérieux problème, donc il faudrait en finir, j'ajoute pour ma part, physiquement, il faut liquider l'homme parce qu'on ne peut plus accepter cette situation. Et là, on arrive en gros à 600, 622, donc 12 années toujours solaires, parce qu'en gros c'est 13 ans de prédication. Alors, ceux qui tiennent plus au détail, on est le 16 juillet 622, d'autres disent que c'est peut-être pas le 16 juillet, mais plutôt au mois de septembre. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y avait le fameux départ, le grand départ, l'hégire véritable. Et là, Mohammed et Boubaker, tous les deux, vont partir vers une ville un peu plus au nord, qui jusqu'à présent s'appelait Yathrib, 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 et elle sera rebaptisée Médine, Madinat al-Nabi, la cité, la ville, le lieu de la civilisation étymologiquement du prophète. Et comme on a apocopé, les Grecs auraient dit, on a fait une apocope, on a enlevé al-Nabi, donc c'est devenu la ville, Médina, Médine, tout simplement, la cité. Sous-entendu la cité du prophète. Et là, donc si nous n'avons pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails, tout ce que je vous dis là, c'est presque ce que je vous raconte, c'est la quatrième de couverture d'un corpus. Parce que chacun des mots, chacune des idées nécessite ces idées-là, j'allais dire des colloques ad hoc, ou en tout cas un épisode spécial. Et là, on est plutôt à Médine. Les Juifs qui s'y trouvaient allaient faire ça, on ne le sait pas beaucoup, y compris parmi les musulmans, allaient faire partie de la Oumma, un terme arabe qui veut dire matrie, matrie, communauté, matrie en opposition à la patrie. La patrie a un lien topographique, un lien direct avec la terre, avec le sol, alors que la matrie transcende les clivages territoriaux. On se reconnaît frère ou frère et sœur dans une grande famille, en l'espèce, reconnaissant la seigneurie divine via un homme qui en est le porte-parole. Et donc on passe à la période médinoise de 622 en gros à 632. Bon, moi j'arrête là cet aspect parce que sinon vous n'aurez pas ce à quoi ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire on va parler du Coran et des hadiths. Alors le Coran, parole de Dieu, non. Alors celui qui veut n'y voir qu'une fiction littéraire, ben, c'est son droit le plus absolu. Celui qui veut y voir une révélation d'origine transcendante et divine, c'est le propre de la foi et de la croyance. Les auteurs latins auraient ajouté fides quaerens intellectum. La foi est toujours en quête d'intelligence. Et la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. On ne peut pas fossiliser, calcifier les choses uniquement à un moment donné de l'histoire. Certes, la théologie, c'est un discours sur Dieu, ou tenir un logos, une étude sur le divin, mais aussi, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et donc, entre ce qui est considéré, certes, en autoréférence, puisque c'est le Coran qui en parle, comme parole de Dieu, et ce que nous avons entre les mains, entre deux couvertures, est-ce que c'est la même chose? Bah, je vous donne mon avis d'homme singulier. Je ne revendique comme autorité que ma réflexion personnelle. Eh bien, la réponse est non. Parce que ce qu'il y a, ou ce qu'il y aurait, ou ce qui est dans l'empyrée céleste, l'empyrée, l'apex, enfin, un endroit dans les cieux, pour un physicien, ça ne parle pas beaucoup ce que je suis en train de dire. Donc, ce qu'il y a dans l'empyrée céleste, et le Coran ajoute sur une table gardée, une table préservée, eh bien, c'est la parole de Dieu, de tout temps, ab eterno, depuis toujours. C'est celle qui s'est faite Torah, plus exactement Pentateuque, ben, c'est celle-là. Et c'est cette même parole qui s'est faite Jésus, homme parmi les hommes. C'est pour ça que les musulmans disent que c'est la parole de Dieu faite homme et fortifiée par l'Esprit Saint, mais ils ne disent pas que c'est le Fils de Dieu, bon, avec Marie Théotokos, mère de Dieu. Et bon, donc, et puis, entre ce qu'il y a dans cette fameuse table gardée et ce que nous avons entre les mains, il y a une perte en ligne. Alors, pour deux ou trois raisons. La première, c'est que si on part de l'idée que Dieu est clément et miséricordieux, certes, mais aussi omnipotent, omniscient, et depuis toujours éternel, l'être éternel par excellence, eh bien sa parole, lui étant co-naturelle, elle est tout aussi éternelle et infinie. Or, il se trouve que ce que nous avons entre les mains est fini. Ça sous-entend qu'on a là uniquement une sorte de projection. Enfin, il finit en nombre des mots et des versets, etc. Parce que d'aucuns disent, oui, mais c'est sa méditation et sa réflexion qui est infinie. Bon. En plus, il y a aussi un autre point. Certains théologiens ne parlent plus de parle de destinateur, pas destinataire. Il crée un néologisme là-dessus. Le premier destinateur, par construction, c'est Dieu. Le premier récipiendaire, c'est un homme. Bon, allez, le truchement d'un ange, qu'est-ce que ça veut dire tout ça aujourd'hui? Mais bon, donc il y a un ange qui est un peu le transmetteur de tout ça. Mais en tout cas, le premier récipiendaire, c'est un homme qui devient premier auteur humain, même si l'auteur divin, ça reste Dieu, donc on doit à tout le moins premier locuteur, locuteur premier, et donc les seconds récipiendaires sont ses tout premiers compagnons, enfin ceux qui l'entendent. J'ai dit tout à l'heure, son épouse, son cousin, son compagnon, son fils adoptif, etc., etc. Voilà les tout premiers compagnons qui sont les premiers récipiendaires de cette parole. Alors, est-ce que ce qui nous est parvenu, c'est la même chose? Bon, un musulman ou une musulmane dans la dévotion populaire tiendra mordicus que c'est vrai. Quelqu'un qui réfléchit un peu dit, ah oui, mais peut-être j'ai appris qu'à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle la Vulgate d'Othman, Othman étant le troisième calife. Encore une fois, le calife ayant la charge d'un califat. Et qu'est-ce que c'est que la calife? Le califat, c'est la charge de celui qui a succédé au prophète. Le troisième calife, 644-656. Et donc, c'est ce fameux Othman, O-T-H-M-A-N, qui donnera plus tard Ottoman, mais ce n'est pas à cause de lui. Le maître éponyme ou l'éponyme, le dynaste éponyme pour les Ottomans, ce n'est pas celui, ce troisième calife dont je parle. C'est Osman, Osman Razi, à juste raison, notre ami nous le dit. Bien. Donc Othman, le troisième calife, a pris sur lui, nous n'avons pas encore le temps, sauf si vous me posez des questions tout à l'heure lors des questions-réponses, de réunir une commission composée de 6 personnes qui allait collecter les matériaux de fortune sur lesquels était consignée la parole de Dieu. Ce qui n'était que consigné, parce que le reste était retenu dans les mémoires des fidèles. Et ces matériaux de fortune étaient du cuir, cuir de vache, des omoplates de chameau, des papyri, pluriel de papyrus, des tessons, en gros c'était ça, des troncs de palmiers aussi. Et puis le gros, c'était la mémoire des hommes, sauf que ceux-ci commençaient à mourir. Et donc, Othman a décidé de colliger, de recenser, de rassembler ce Coran. Et on accepte que ce que l'université Al-Azhar, en 1923, l'université Al-Azhar du Caire, a imprimé comme corpus coranique, c'est celui que nous avons entre les mains et c'est celui qui fait autorité. Là aussi, les Grecs, les Latins auraient dit un textus receptus universus ne varietur, c'est-à-dire un texte reçu, universel et qui ne change plus. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Pour la simple raison qu'il y avait d'autres corpus concurrents, juste 2 siècles et demi plus tard, notamment ce qu'on appelle le corpus d'Ibn Masoud, où le nombre de sourates n'est pas le même, etc. Et même au niveau d'un même corpus, on avait des lectures différentes. Pour la simple raison aussi, c'est que à ce moment-là, l'écriture n'était pas si avancée que maintenant. Je parle de la graphie arabe. Il n'y avait que quelques, ce qu'on appelle les consonances, les carcasses consonantiques, quelques signes, quelques graphies, quelques lettres, homographes, qui étaient pareils d'ailleurs, et qui n'étaient que comme aide-mémoire pour les Arabes, dont on disait, il faut le croire ou pas, qu'ils avaient une mémoire prodigieuse. Et pour cause, ils pouvaient retenir par cœur des odes ou des poèmes avec des centaines, voire des milliers de vers. Bon. Après, quand ce phénomène de la mémoire prodigieuse commençait à s'estomper, on commençait à ajouter les points diacritiques. Alors, ajouter des points diacritiques sur des lettres homographes n'est pas sans poser de sérieux problèmes. Et après, on avait ajouté des vocalises. Parce qu'on peut même avoir des lettres avec des points diacritiques. S'il n'y a pas des vocalises, on ne peut pas aussi distinguer, enfin, au niveau d'un... Je rentre pas dans les détails des travaux des paléographes sur ces textes-là. Donc, ce que je voudrais vous dire à vous ici, puisque c'est un atelier de discernement, c'est comme ça que je le perçois, c'est que il y a ce que croit la dévotion populaire et il y a, bien entendu, l'approche académique. Deux autres aspects que je voudrais vous dire à propos du Coran, au niveau contenant, pas contenu, c'est que on a découvert, allez, dans l'ordre, si c'est chronologique, lors de la campagne de Napoléon, donc l'expédition c'était 1798-1801, à Alexandrie, un manuscrit que les spécialistes et les paléographes de nos jours, ou depuis toujours, l'ont appelé le Parisino Metropolitanus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que ce manuscrit avait 98 feuillets. Bien, la Bibliothèque nationale en avait pris, la Bibliothèque nationale de Paris, on avait gardé 70 feuillets. À Saint-Pétersbourg, on en avait pris 26 et on a pris un feuillet pour le Vatican, un feuillet pour Londres. Bon, le total fait 98. Et donc les paléographes, en ayant travaillé dessus, ont découvert qu'il y avait cinq scribes différents, ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture, de la courbure, etc. Bon, et les 98 feuillets représentent 40 et quelques pourcents de l'actuel corpus. Donc c'est un matériau de travail depuis quasiment 2 siècles maintenant, enfin plus de 2 siècles, pour les spécialistes du Coran. Contenant. Et puis, deuxième découverte considérable, c'est qu'il y avait des pluies torrentielles, un véritable déluge, qui a frappé Sanaa, la capitale du Yémen, en 1972. Et là, il y avait une vieille mosquée qui s'est effondrée, et on a découvert de vieux manuscrits très très proches de l'époque d'Ottoman. La datation n'était pas si précise que ça, mais en gros, on dit on est fin 7e, début 8e siècle. Et là aussi, il y avait un ordonnancement des sourates qui n'est pas celui que nous avons là, encore une fois, quand je dis nous autres humains. De ce qu'on considère comme étant le corpus standard. Encore une fois, authentifié par l'université Al-Azhar et ayant eu, si j'ose dire, l'imprimatur des autorités de la Mecque. Bon, quelques idées uniquement que je voulais vous donner sur le Coran, du point de vue de sa structure ou de sa forme. Maintenant, comment est-il présenté? Il est présenté en 114 sourates, globalement de la plus longue vers la plus courte, sauf que ce n'est pas si ordonné que ça. On peut trouver une plus courte avant, une un peu plus longue, mais globalement, c'est ainsi. La première a 286, 283, 286 versets, enfin la première. En dehors de la préface invocatoire, en dehors de l'ouvrante, comme on l'a, ou le prologue. Et la dernière, sourate, on n'en a que trois versets. Ça vous donne une idée comment les sourates s'amenuisent, ce qui sous-entend que le centre du Coran n'est pas au centre du corpus. Il est tout à fait au début, puisque au centre, le centre, comment on appelle ça, ne serait-ce que lexicographique, c'est-à-dire si on a le même nombre de versets de part et d'autre, ce n'est pas au milieu du corpus, puisque je vous dis qu'il est classé dans l'ordre décroissant. Alors, on distingue les sourates mécoises des sourates médinoises. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? C'est que la révélation coranique a été morcelée en 23 années lunaires, ou fragmentée, ou échelonnée. sur tout ce temps-là, le temps du ministère apostolique du prophète, sa prédication, si on part de l'idée qu'elle a commencé en 610, certains disent un peu plus tard, puisqu'on ne va pas considérer que ce qui s'est passé dans la fameuse grotte, qui depuis lors sera appelée la grotte de la lumière, mais elle avait un autre nom, la grotte de Hira, jusqu'à ce qu'il rejoignait le compagnon suprême selon la formule consacrée, donc en 632, ces 23 années lunaires étaient le temps de sa prédication et la révélation coranique a couvert ce temps-là. Alors, d'aucuns disent qu'il y avait des temps de rupture de la révélation qui, dans certains cas, avait atteint presque plusieurs mois. Certains ajoutent même jusqu'à 3 ans. Et on ajoute que l'homme est devenu dans une déréliction totale, dans une tristesse, dans une véritable neurasthénie. C'est notre ami Jean-Pierre Raffarin qui a utilisé à un moment donné l'acédie. Donc il était totalement abattu, d'autant plus on est encore en période mécoise. Et puis des membres même de sa famille, des gens proches de lui, qui n'avaient pas épousé ni ses idées ni sa prédication, venaient le brocarder en lui disant, et alors, ton Dieu ne te parle toujours pas? Il ne pouvait pas répondre. Et c'est là où il y avait le fameux événement, à proprement parler, extraordinaire de la fameuse chevauchée nocturne et ascension céleste depuis le fameux dôme du rocher jusqu'à Jérusalem. C'est un événement qu'il faudrait aussi replacer dans un contexte et dont l'exégèse couvre toute une gamme qui va depuis un simple songe mystique jusqu'à, pour certains, un véritable voyage incorporé, corps et âme. Bon, il y en a encore certains qui le croient, mais en tout cas, maintenant, la thèse générale, c'était un véritable songe mystique. Si vous voulez que je vous le dise, c'est qu'on est en 619, et là, l'homme a fui la Mecque, parce que la vie était intenable, il part dans une autre oasis qu'on appelle l'oasis de Taïf. L'actuelle ville de Taïf en Arabie Saoudite. Et là, il a été reçu, il a été battu à coups de mâchoire d'âne, sa propre mâchoire fracassée, des éléments putrides sur la tête, lapidé à coups de pierre par des enfants. Et là, il ne disait rien d'autre que « Oh mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Reprenant la parole de Jésus, connaissant la passion. Il revient à la Mecque. Parce qu'il ne pouvait plus rester à Taïf. Là, son épouse décède. Dit-on, il l'aimait d'un amour infini et chose extraordinaire, c'est la troisième fois que j'utilise l'épithète, qu'il était strictement monogame avec elle, alors que la tendance ou la pratique ou la règle générale était plutôt à la polygamie. Donc il perd son épouse, il était éconduit depuis Taïf, il y a son oncle qui le protégeait, parce qu'il avait un ascendant moral sur les autres Mécois, meurt aussi, il perd sa descendance mâle, pour un sémite c'était l'opprobre absolu, puisqu'on l'appelait l'amputé, c'est-à-dire que comme la société était patrilinéaire, ou viri local, c'est-à-dire que c'est toujours l'épouse qui part, la femme qui part. Et donc, comme lui, il avait trois fils, il avait des filles, mais il avait aussi trois fils, et il en perdait, à ce moment-là, on n'en avait pas encore d'autres, mais en tout cas, il a perdu sa descendance mâle. Tout ça se réunissant avec l'interruption de la révélation qui était le cas, le plus aggravant, c'est dans cette situation qu'il y a eu l'événement extraordinaire. Si vous voulez que je vous le relate dans sa littéralité première, je vous le dis, après on peut prendre toutes les distances qu'il faut. Voilà qu'il était dans sa couche, chez une cousine, parce qu'il ne pouvait plus rester dans sa demeure après le décès de Khadija. Et là, curieusement, il y a une monture, rappelant le Pégase de la mythologie. Donc une monture ailée, avec un visage humain, un animal composite. Et c'est l'ange Gabriel qui lui dit, voilà, tu peux l'enfourcher. Et on ajoute, dont le pas, le on, ce sont les biographes, les rapporteurs de la fameuse Sira. Sira, étymologiquement, c'est un curriculum vitae. Donc, n'oublions pas qu'elle a commencé à être étudiée ou rassemblée que vers 767, c'est-à-dire un siècle et 46 ans plus tard, ou 45 ans, et même pas écrite, c'est un certain Ibn Ishaq qui a commencé à rassembler les éléments, et c'est le disciple Ibn Hisham qui lui va décéder entre 828 et 832, et donc les premiers écrits concernant la vie de Mohammed ne datent que depuis le début, au premier tiers du 9e siècle. Et donc, allez, je reviens à mon récit. Il enfourche cette monture ailée qui s'appelle Al-Burak, donc l'éclair étymologiquement, et dont le pas atteint la limite du regard. Donc un physicien aurait dit qu'il va à la vitesse de la lumière. Quand on a un pas qui atteint la limite du regard, c'est qu'on va à la vitesse de la lumière. Donc il va de la Mecque à Jérusalem. Et le récit, dans sa littéralité, ajoute, et là, il a enchaîné Al-Burak. Ben, celui qui lui avait ramené une première fois, il peut le lui donner une deuxième fois, donc il n'y avait aucune raison de l'enchaîner. Et il a entrepris la fameuse ascension céleste. Je n'en rentre pas dans les détails de ce que je pourrais appeler une pérégrination spirituelle, une topographie des lieux, etc. Et dans une sorte de confraternité avec les autres prophètes, il rencontre Jésus, Abraham, Moïse, Aaron, tout ce qu'on veut. Et au septième ciel, on est en présence, un beau terme arabe, coranique, c'est on est devant le tapis de la familiarité. Et puis on parle du lotus de la limite. Et puis le Coran rapporte ces faits en deux passages. Et aux allusions elliptiques du Coran, il y a une prolifération, une profusion littéraire, j'allais dire, des hommes. Et les deux passages coraniques sont les suivants. Le premier, c'est le tout premier verset de la sourate 17, qui dit: Gloire à celui qui fit transporter son serviteur adorateur de nuit de l'oratoire consacré au sanctuaire éloigné, afin de lui montrer certains de nos signes dont nous avons béni les alentours, et afin de lui montrer certains de nos signes. Ce qui est curieux dans la syntaxe de ce passage, c'est qu'on a à la fois gloire à celui qui fit, donc troisième personne, et puis ça devient un nous. C'est une des caractéristiques, j'allais dire, du discours coranique, du point de vue de la syntaxe même. Et l'autre passage, mais il n'y a rien d'autre, qui est: Et quand il s'est tenu à une distance de deux portées d'arc, ou moins encore, son regard n'a ni soutenu, il a vu ce qu'il a vu, mais son regard n'a ni soutenu ni dévié. Bon, puis ça y est, on passe à autre chose. Ce qui est très déroutant dans le Coran, puisqu'on ne peut pas commencer une histoire et la finir quasiment jusqu'au bout. Ça se part et puis ça revient. Il y a une sorte de logique propre au récit et au discours sémitique, encore une fois. C'est ce qui a fait dire à Voltaire que c'est une rhapsodie sans ordre, sans art, ni liaison. Les linguistes et ceux qui étudient ce type de discours, je ne peux pas rentrer dans des détails techniques, parlent d'une présentation étoilée et aussi de ce qu'on appelle des chiasmes. Il y a une présentation chiasmatique. Le chiasme, c'est avec un CH. Et on commence par une idée et d'une manière symétrique, on la retrouve par la suite, même si on a changé de sujet entre-temps. C'est-à-dire, on n'a pas quelque chose de linéaire qui commence avec une introduction, un développement et une conclusion. Ce qui explique pourquoi on ne retrouve pas les mêmes idées qui se suivent ou qui s'enchaînent. Ce qui a ajouté à quelques difficultés à l'exégèse du Coran. Bon, c'est vous qui êtes maître du temps, mon cher Cyril,
Oui,
ou bon.
on va achever si vous voulez bien. On laisse un peu de temps pour les questions.
Ah ben volontiers, volontiers. Alors, on va passer au hadith. Ça va être rapide. Autant pour les musulmans, la référence première, j'ajoute éclairée ou intelligent ou lettré, la référence première demeure le Coran. Une part des propos prophétiques, autant pour d'autres, et davantage ce qu'on nomme maintenant les radicaux, c'est qu'il y a une inflation des aphorismes prophétiques. Déjà par les traditionnistes, à ne pas confondre avec les traditionnalistes, un traditionniste, c'est celui qui rapporte la tradition. Donc il y a un enseignement prophétique de type n'importe quel. Dieu est beau, il aime la beauté. Voilà un très bel aphorisme qui entre en résonance avec ce que dit Dostoïevski, la sauvée sauvera le monde dans l'idiot. Voilà, si les talibans étaient sensibles à la beauté, peut-être qu'ils n'auraient pas agi avec idiotie comme ils l'avaient fait, comme ils le font toujours. Voilà un aphorisme prophétique. Je ne sais pas, on peut en trouver d'autres. Celui qui a été repris par l'émir Abdelkader après son intercession en 1860 à Damas, et quand Monseigneur Pavie, successeur de Monseigneur Dupuche, évêque d'Alger, s'étonnait de son geste, la réponse de l'émir, ah, mais j'ai rien fait d'autre que de me conformer à l'aphorisme prophétique qui nous enseignait que les hommes sont fils de Dieu et que le plus adorable et le plus utile parmi ses enfants, CES ou SES, est le plus utile, le plus adorable auprès de Dieu et le plus utile à ses enfants. Voilà un aphorisme prophétique. Donc il y en a quelques-uns. Et là, si on considère maintenant les corpus qui nous parviennent, c'est que l'homme a passé sa vie à parler. Ce n'est pas possible. Enfin, sa vie entre 610 et 623. Donc il y a une inflation qui s'explique par quoi? Il y a des aphorismes apocryphes. Il y a ceux qui ont été fabriqués par des acteurs sociaux pour le prince. Il y a aussi parmi les traditionnistes eux-mêmes, parce qu'ils jouissaient d'un tel prestige, du genre, ils rapportaient la parole prophétique, que quand ils n'en avaient plus, ils en rajoutaient. Et maintenant, on commence à se rendre compte de ce qu'on appelle la chaîne de transmission, la chaîne d'or, celle-là, elle est authentifiée et solide. Une un peu discutable, une troisième, elle est tout à fait elle est plus que contestable, et puis les aphorismes totalement apocryphes, du genre comme les actuels monarques saoudiens, il vaut mieux obéir à un roi futile, injuste, que de susciter ou de fomenter des troubles et le désordre. Ça, il n'y a pas plus fabriqué que des choses de cet ordre. Bon. Et si le peuple est crédule, il en gobera. Bon, allez, restons là, et on n'en est qu'à l'écume des choses, parce que pour aller en profondeur, on ne peut pas ramasser 15 siècles à la fois sur le plan culturel, théologique, spirituel, civilisationnel, et surtout une civilisation impériale à l'architecture palatiale, dont l'élément arabe n'est que minoritaire, puisque le centre de gravité est en insulaire, et en Inde et en Indonésie, j'allais dire en une séance. Donc, merci de m'avoir écouté. Toutes vos questions sont les bienvenues. J'y répondrai si je peux répondre, au sens de si je sais répondre.
Alors, juste une petite, juste un petit point. On nous demande d'évacuer les lieux dans un quart d'heure, par respect pour la personne qui est chargée de la sécurité. Voilà. C'est-à-dire, on n'est plus là à 21h15.
Moi, j'ai une première question. C'est justement sur les aphorismes prophétiques. Comment est-ce que ça peut naître, puisque par définition, enfin, comment est-ce qu'on fait la distinction entre le Coran et l'aphorisme? Je l'ai compris hein, dans
oui,
ce que vous
compris.
Avez expliqué, mais comment ça émerge, puisque ça n'appartient pas au Coran? Comment est-ce qu'on peut croire que ça a autant de valeur que le Coran, par exemple? Voilà, c'est un peu ça qui m'intéresse.
Alors, vous avez tout à fait raison de poser la question. Enfin, je ne fais pas le coup de Georges Marchais, hein, donc merci de l'avoir posé, c'est une question intelligente. Parfois, il ajoutait. Ça n'a pas autant de valeur, c'est second. C'est peut-être pas secondaire, mais c'est second. Déjà, quand c'est authentique. Et dans tous les cas, la primauté ou le primat du Coran est réel. Et s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les deux, le primat est au verset coranique. O-A-U-X. Hein, donc, bien. Alors, c'est lui qui disait ceci est parole de Dieu, ces versets, etc. Le reste, il ne le spécifiait pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aphorisme prophétique? Certains ont bien voulu ajouter ces silences devant des situations. Tant pis, on n'en a qu'un quart d'heure, mais je prendrai 2 minutes sur un fait considérable. C'est à propos de la lapidation, qui n'a pas de fondement coranique. Aucun. C'est pour ça que lors d'une controverse célèbre avec Tariq Ramadan, je lui ai dit, ça ne t'aurait rien coûté de dire que c'est une abomination, et qu'il faut la condamner comme telle, et à supposer par extraordinaire qu'elle eut un fondement coranique, ça reste aussi une abomination de nos jours et qu'il faut condamner comme tel. On rapporte qu'on est venu le voir, il était à Médine, pour lui dire « Ô envoyé de Dieu ou ô prophète, on a vu un tel et une telle en train de faire des choses ensemble. » Les chroniqueurs disent qu'il s'est détourné faisant mine de n'avoir pas entendu. Le type qui est dans la balance, aurait dit nos jeunes, il vient comme ça, il lui dit ben, je t'ai dit qu'un tel et une telle ont fait des choses ensemble. Allez, pour faire court, il s'est retourné encore une fois et en faisant mine de n'avoir pas entendu, en jouant ou en tripotant quelque chose. Et au bout de la troisième fois, il lui a dit eh bien, tu sais, hein, quand même. Et le prophète avait ajouté, et pourquoi ne les as-tu pas couverts de ton manteau? Et là, des juifs de Médine lui ont dit, ah, tu nous as toujours dit que tu es continuateur de la législation de Moïse, et tu n'appliques pas ce qu'il y a dans la législation de Moïse. Et là, bon, donc voilà un aphorisme du genre, et en plus on est dans une logique de purification par le châtiment de Dieu et tout, enfin tout ça est éculé. Eh bien, s'ils veulent se faire purifier, qu'on applique la loi de Dieu. Bon. Voilà le fondement qui fait que les islamistes radicaux de Boko Haram ou les wahhabites, etc., tiennent à lapider les scandales dans le scandale. Pas les deux, que la femme est encore enceinte, etc. C'est qu'on est dans la crétinisation des esprits. Cette parole-là devient un aphorisme prophétique. Et s'ils veulent se purifier du péché, qu'on applique la loi de Dieu, voilà un aphorisme prophétique. Ça, ce n'est pas du Coran. Donc, si je vous ai cité délibérément cet exemple, c'est pour vous dire, on est dans des situations où ça fait partie de l'enseignement d'un homme dont on nous dit à diriger l'État de Médine, et ça n'a aucun sens puisqu'à Médine il n'y avait aucun État, aucune des prérogatives de l'État, au mieux ce n'était qu'une cité, et sinon une communauté en cours de mutation. Donc voilà, j'espère avoir répondu d'une manière très très concise au distinguo entre Coran et Hadith. Simplement par souci, j'allais dire, et le débit est plus long, plus rapide, je veux dire, pardon, parce qu'on perd en compréhension quand le débit est rapide. Oui.
Merci pour votre exposé, effectivement, engageur que de exposer aussi rapidement au temps de siècle, avec un langage chatting qui rafraîchit un peu mon lexique, hein, c'est vrai. J'ai deux, trois questions très rapides, pour le temps que vous voulez. La première, c'est qui est liée un peu à la fait religieux, mais c'est le décalage entre le fait religieux et le fait historique et la mise en écriture. Les dizaines d'années passées, comment était appuyée la véracité de ces écrits à travers les siècles et sur quelle base? Et ensuite, c'est. Alors, vous avez, moi, commencé à donner une réponse sur l'idée de. Il y a effectivement cette polémique sur il ne sait pas lire et il lit le Coran. Et vous avez bien exposé, il fait comprendre que ce n'était pas le terme lire, mais plutôt lire, réciter, plusieurs sens. Donc j'ai saisi, et en fin de compte, je viens de comprendre que depuis des années, il y a des musulmans qui se battent pour dire qu'ils ne savaient pas lire, il a lu, mais en fin de compte, c'est un peu plus subtil que ça, au niveau du lexique. Et la question que je voulais poser, importante à mon sens, c'est que, puisqu'on est dans ce cours-là, dans cette introduction au Coran, c'est que l'islam est perçu à travers l'histoire aussi comme une religion qui s'est propagée à travers les guerres.
Oui.
Présenté comme ça. Donc, quelle est un peu votre approche et vos positions par rapport à cette présentation, mais pas, sans doute, parmi le temps, vous n'avez pas mis en avant, où il y a des récits guerriers, mais aussi une volonté de propagation, lorsqu'on rencontre le rabbin qui explique que lui n'a pas cette volonté dans la religion de propager religion judaïque, à l'inverse de l'islam qui est volonté de propagation et aussi présenté par à travers les guerres. C'est beaucoup de questions.
Oui. Il y en a au moins trois fondamentales. Le triptyque est le suivant. Un, l'histoire était-il illettrée ou pas? Savait-il lire ou pas? Vraiment un véritable débat. À 90%, la thèse centrale, c'est qu'il ne savait pas lire. D'autres disent. C'est pas important, il savait lire ou pas lire, bon, mais en tout cas, peut-être même plus que 90%. Pardon, je ne peux pas développer ça, c'est pas que je ne veux pas, mais qui dit choisir, dit renoncer. Deuxième panneau au volet de votre récit, c'est est-ce que je n'ai pas parlé des versets guerriers? C'est pas une volonté de ma part d'éluder la question, absolument pas. On en a des fous furieux qui tuent au nom de cette tradition religieuse. Qu'il y ait des passages belligènes, ce qu'on appelle les versets de facture martiale, c'est une réalité, bien entendu. Qu'un Zemmour dise que c'est le tiers du Coran, c'est du n'importe quoi. C'est même un relayeur d'opinion qui raconte n'importe quoi. Une telle bilvesée, une telle argutie, c'est à se tordre de rire ou à se cogner la tête contre le mur. Mais il n'y en a eu qu'un seul, ça aurait posé un sérieux problème. Et aucune apologie de ma part. C'est vrai que ces passages-là existent. Je ne ferai même pas la comparaison avec les écrits bibliques parce que ça n'a aucun sens. Les fameux tués, les Jébusiens jusqu'à la 7e génération, on peut se poser la question pour la première, mais pourquoi la 7e? Tuer le peuple d'Amalek jusqu'à la dernière poule, les pauvres poules n'ont rien fait, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'à un moment donné de l'histoire, quand la psyché humaine est sensible dans son entendement à un certain discours, il est malheureusement de cet ordre-là. Donc je peux vous citer par exemple des versets qui posent de sérieux problèmes et qui sont... Et maintenant, il est autorisé à ceux qui ont été pourchassés injustement de leur demeure de combattre les mécréants. Combattez-les où que vous les trouviez. Kazimirski ajoute, faites-en un carnage. Je puis vous assurer qu'il n'est pas dans le texte originel. Jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône et qu'ils accomplissent la prière. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle. S'ils te demandent asile, accorde-le leur afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. Ne transgressez pas, parce que Dieu n'aime pas les transgresseurs. Un idiot va mettre un point là où il y a une virgule, en plus il n'y avait aucune ponctuation, et il ne tient pas compte du « et maintenant il est autorisé. Pourquoi ? Parce que durant la période mécoise, il n'y avait pas ces injonctions à combattre les Mécois, etc. Quand on est dans la période médinoise, les conflits se sont poursuivis entre Mécois et Médinois, pour faire simple, entre primo-musulmans et les Coraïchites. Bon, un, il faut une exégèse qui dise quoi ? D'abord que toutes les incidences sociales, éthiques, morales, politiques de ces passages doivent être considérées non pas comme caduques ou frappées de désuétude ou d'obsolescence, totalement inopérantes ou dévitalisées, même si c'est dans le corpus, il y a tout un enseignement. Parce qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Et aussi dénoncer la myopie, pour ne pas dire la cécité totale, des autres versets. Le verset 34 de la sourate 41, la fameuse sourate dite des versets détaillés, c'est comme ça qu'elle s'appelle. La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. Tiens, celui-là on le lit et on l'applique, mais l'autre on ne le lit pas et on ne l'applique pas. Ou le verset 54 de la sourate 5, « Oh, vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qui l'aimera et qui l'aimera. » Il n'est pas dit qu'il faut l'oxyre, qu'il faut le tuer, qu'il faut le pendre et tout. Ça, on ne le lit pas, on ne l'applique pas, mais on va appliquer le précédent du calife Boubaker qui, parce qu'on n'a pas voulu s'acquitter de l'aumône, on va livrer bataille aux uns et aux autres, etc. Donc, un énorme travail d'exégèse, et puis même de nos jours, malheureusement on n'a pas le cas, ben, si vous le souhaitez, dans un autre contexte, et je ne suis pas à la recherche de tribune pour asséner mes vérités, hein, donc, que les choses soient claires, on aurait pu aborder les problématiques de nos jours. Et donc ce travail considérable, titanesque, où il faut déjudiciariser la révélation, ne pas arrimer la norme juridique dans le patrimoine religieux, ben ce travail est à mener de nos jours. Maintenant, troisième triptyque, et je suis navré aussi qu'on n'ait que si peu de temps, par ma faute, parce que j'étais très prolixe dans la présentation, à propos de la propagation par les armes. On peut accepter ça. On peut l'accepter, j'allais dire, mentalement. Je ne suis pas pour la guerre, loin de là. Sinon, votre serviteur n'aurait pas présidé un machin, au sens gaullien du terme, la Conférence mondiale des religions pour la paix. Mais c'est curieux. Voilà, d'un côté, on dit, voilà un peuple qui n'avait ni garnison, ni soldatesque, ni armée, ni arts martiaux, ni rien. Mais en l'espace de 10 ans, les deux grandes puissances de l'époque non seulement étaient mises à genoux, mais étaient quasiment terrassées. En l'espace de 50 ans, on est dans le Caucase, et en l'espace d'un siècle, le monde connu, en dehors de la chrétienté, était sous férule islamique. Donc forcément, ils se sont propagés par la guerre. Oui, mais avaient-ils une garnison, des armées, etc., oui ou non ? S'ils avaient, ah ben oui, pourquoi alors quand c'est un Marc-Antoine ou toute autre tête couronnée de lauriers, ils sont encensés dans les manuels scolaires, et cela non, même si c'est au nom d'une tradition religieuse. Ou, il y a peut-être des choses qu'il faudrait expliquer autrement. La Mecque, Damas et Jérusalem ont été islamisés sans coup férir, sans effusion de sang. D'autres, oui. L'Afrique subsaharienne, non. Les comptoirs indiens, non. Via la mer d'Arabie. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, je caricature, parce que la caricature aide à comprendre. Très brièvement, c'est comme si je venais voir mon voisin et je lui dirais ceci. Écoute, je suis porteur d'une foi, d'une vérité absolue, j'en suis détenteur, je te la propose. Tu l'acceptes, nous serions frère en Dieu, tu épouseras ma fille, j'épouserai la tienne. Allez, bon. Et je ne suis pas meilleur que toi, tu n'es pas meilleur que moi. Parce que ma mission, parce que je suis galvanisé, je suis fanatisé. Hein, donc, je suis galvanisé par qui? Par un homme qui a envie d'être monarque. Parce que depuis toujours, les hommes sont les hommes, voulant être des monarques, instrumentalisent, étatisent, domestiquent, manipulent le sentiment religieux pour autre chose. Les Omeyyades, les Abbassides, etc., ayant goûté au pouvoir terrestre, ben, ont trouvé le meilleur adjuvant pour l'expansion que le discours que je suis en train de tenir. Peut-être qu'il y en avait parmi ceux-là, ceux qui étaient convaincus, mais ça c'est le fanatisme des hommes. Donc, ben voilà, je suis détenteur de la vérité absolue. Tu l'acceptes, on est frère, tu ne l'acceptes pas, tu ne devrais pas. C'est comment? Tu oses refuser la vérité absolue? Et comme moi je suis tolérant, enfin, la tolérance trahit une attitude snobinarde et condescendante vis-à-vis du toléré. Je t'accepte tel que tu es, tu payeras une dîme de capitation, allez, in petto, je crois que c'est même une dîme d'humiliation, parce que moi je suis meilleur que toi. Le jour où tu reconnaîtras ma vérité, eh bien tu l'épouseras et tu n'auras plus à être dans cette situation presque, le mot citoyen ne s'appliquait pas, de seconde zone. Ou si tu ne veux même pas, alors que je te garantis le libre exercice de ton culte, etc. Et si tu ne veux ni épouser ma vérité, ni accepter de vivre sous ma férule, eh bien on se bat. Si je meurs, moi je mourrai en martyr et j'irai profiter des délices paradisiaques. Et si tu meurs, ben, tant pis pour toi, tu iras périr par le feu de l'enfer. Voilà, en gros. Ça a eu lieu, forcément, entre Byzance, etc., avec les Seljoukides lors de la bataille de Manzikert, entre même Mahomet, Mehmet le conquérant, le 29 mai 1453, qui est une date terrible pour Philippe de Villiers. Et donc, bon, et le reste, c'était de par le contact. Par le commerce. Par le commerce parce que, soi-disant, on a trouvé des gens honnêtes. Parce que, soi-disant, il y avait une sourate dans le Coran qui dit « Attention, ne fraudez pas dans la balance, vendez bien, etc. » Alors, est-ce que la religion islamique est à vocation universelle? Oui, un peu comme à la manière de la... De la version catholique au sens étymologique universel, aller enseigner les nations. On est un peu dans ce sens-là. De nos jours, il faudrait garder raison, revoir toutes ces considérations. Donc on arrête là, puisqu'on est à 16.
De toute façon, oui. Par rapport à toutes les questions que je peux encore avoir posées à Adèle Monchet, dans le cadre soit des travaux au comité ou à titre personnel, en passant par Cyril, plus directement,
on trouvera le temps et.
Il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aux entrées. Et on se retrouve le 9.
Je m'arrête. Je joue là parce que moi je.